Donc aujourd'hui, on va travailler sur les rites et les prières du baptême. Donc j'ai considérablement stressé Caroline parce qu'elle m'a dit oulala, mais qu'est-ce qu'on va dire pendant tout ce soir-là? En fait, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, les rites du baptême sont très très chargés de sens. Et les catéchèses des pères baptismales, des pères des 4e et du 5e siècle, mettent en valeur et explicitent voilà, tous les symboles derrière les rites du baptême. Donc dans les pères, on a Cyrille de Jérusalem qu'on va pas mal utiliser, mais il y a aussi Grégoire de Nice, il y a aussi Origène, il y a aussi Grégoire de Nations. Et puis bon, Saint-Basile aussi, là. Enfin bon, il y en a beaucoup qui en ont parlé, mais les vrais catéchèses, c'est plutôt cela. Alors dans un premier temps, on va regarder le déroulé d'un baptême avec Cyrille de Jérusalem. Et puis ensuite, on fera un point sur les évolutions, que ce soit dans l'Église catholique, que ce soit dans les Églises orthodoxes. Enfin voilà, quelques points de l'évolution. Je n'ai pas la prétention de faire l'exhaustivité des évolutions, mais en tout cas de souligner quelques évolutions. Et puis ensuite, on se penchera sur les symboles, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de symboles. Voilà, donc c'est une relecture aussi de ça. Alors, si on fait le baptême pas à pas avec Cyrille de Jérusalem, donc faut savoir que Cyrille, il a écrit ses catéchèses, donc ça s'appelle mystagogique, je trouve le mot très très joli. En fait, c'est des catéchèses qu'il faisait après le baptême, puisqu'en fait, il reprenait tous ceux qui avaient été baptisés, donc les néophytes, et il leur expliquait ben, tout ce qu'ils avaient vécu en fait dans la nuit pascale. Voilà, parce qu'ils étaient tellement dans la chose qu'il fallait faire une relecture derrière, et c'est pour ça que c'est des catéchèses qui sont assez. Où il donne beaucoup le sens, etc. Parce qu'on n'est pas dans la préparation du baptême, on est dans la relecture pour comprendre ce qui s'est passé et ce qu'ils ont traversé. Alors évidemment, comme tous les pères de l'Église sur toute cette époque-là, donc il parle beaucoup de la parole de Dieu, les références à l'Ancien Testament, donc c'est très nourri. Et puis, c'est aussi très quotidien parce qu'il insiste sur les dispositions intérieures, sur ce que ça veut dire, etc. Faut savoir que la préparation avant, on va le voir un peu plus tard, mais c'était très plutôt orienté moral, parce qu'en fait, avant d'avoir le baptême, on n'avait pas la foi, et donc du coup, enfin, on n'a pas reçu toute le don de la grâce, et donc on n'a pas toute la, on n'est pas équipé pour comprendre tout le mystère de Dieu. Et donc avant, c'était très tourné moral, et après, c'est l'explication plus théologique et mystique. Voilà. Donc, il faut savoir que la préparation. Donc, on est au 4e siècle, voilà. Donc, on est quand même très tôt après l'Église. On verra dans les évolutions aussi un peu la période antérieure. Donc, c'est une période où il y avait beaucoup, beaucoup de baptêmes. Et Cyrille de Jérusalem, en plus, faisait ses baptêmes ben, au Saint-Sépulcre. Donc, du coup, pour lui, c'était encore plus dans les pas du Christ, puisqu'il avait. En fait, il y avait tout le trajet depuis. Enfin, il allait vers le tombeau, il allait vers le. Donc, il reprenait les lieux même que Jésus avait fait. Donc, c'était encore plus parlant, l'entrée, le vestibule, etc. Donc, il s'appuyait aussi beaucoup là-dessus. Alors, donc, la préparation était très longue. Donc, déjà, ils avaient tout un parcours très, très long, les catéchumènes. Et puis, ils avaient une préparation, intense avec des catéchèses quotidiennes, pendant ce que nous, on appelle le carême. Et là, ils sont invités à la conversion intérieure, à la confession des péchés, aux prières, aux jeûnes, à la vigilance, pour essayer de pas, voilà, de pas avoir prise sur que le démon ait prise sur eux. Et du coup, plus on s'approche de Pâques, plus c'est intensif, et donc plus ils passent du temps à préparer leur baptême. En fait, c'est pas que les futurs baptisés et Cyrille de Jérusalem. Il y a aussi les préparateurs, les diacres. Enfin, il y a un rôle de beaucoup, beaucoup de la communauté qui soutient et qui aide les catéchumènes à avancer sur ce chemin. Donc, on est surtout sur une préparation morale, comme je vous disais, avec l'idée de choisir entre deux voies, la voie des chrétiens, la voie du vice. Donc, on est exactement dans ce que l'on Deutéronome, voilà, si tu tiens à la vie et si tu veux le bonheur, choisis la vie et la bénédiction, et sinon tu vas vers la mort et la malédiction en choisissant le vice. Voilà. Et donc c'est vraiment après le baptême qu'il y aura la lumière de l'Esprit Saint pour comprendre ce qui s'est passé. Donc cette préparation, elle est assez intense. On reviendra dans les évolutions sur ce caractère préparation et qu'est-ce qu'il est devenu, comment il a évolué dans le temps. Alors, la première étape, donc là, on est à la vigile pascale, parce que c'est clairement, à cette époque, ça se passe pendant la vigile pascale. Donc, ils entrent dans le vestibule, donc quasiment l'entrée imaginez l'entrée du Saint-Sépulcre, voilà. Ils se tournent. C'est l'entrée. C'est comme un vestibule d'une maison. C'est les églises, elles ont une entrée. Voilà. Surtout Saint-Sépulcre, où c'est un peu une géographie compliquée. Si vous allez en pèlerinage en Terre Sainte, vous verrez. C'est pas si simple de s'y retrouver. À l'époque, c'était encore un peu différent, mais bon. Donc, oui, il y a des espaces où voilà, on est dans un couloir. L'idée, c'est d'être dans un couloir où on est. Donc, il se tourne vers l'Occident. Donc, c'est ce que nous dit la catéchèse. D'abord, vous entrez dans le vestibule, vous vous tenez face à l'Occident et vous renoncez à Satan et à toutes ses œuvres, à toute sa pompe et à tout son service. Donc, en fait, on est à l'entrée du baptistère, on est avant, juste avant. Et les catéchumènes, donc, ils se tiennent debout, tournés vers l'Occident. Donc, l'Occident, c'est le symbole du soleil couchant et donc des ténèbres et du règne de Satan. Donc, ils sont tournés vers l'Occident. C'est la première épître de Pierre qui est lue, donc sur le renoncement et justement le détachement du mal. Et ils tendent la main vers l'Occident et ils prononcent la phrase « Je renonce à toi, Satan ». Et toutes tes œuvres, toute ta pompe et tout ton service. Donc, ce qu'on met derrière ça, c'est les œuvres, c'est vraiment le renoncement au mal, au péché. La vanité du monde pour ses pompes. Donc, c'est tout ce qui est autour du brillant, du clinquant, du... Voilà. Donc, ça marche aussi maintenant. Hein. Et les pratiques idolâtres, en fait, on a plus de mal à en parler maintenant, mais il y en a aussi. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce qui est le service de Satan et qui est, met des choses à la place de Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Qui est très, comme vous voyez, assez ritualisé avec des gestes, etc. Ensuite, il se tourne vers l'Orient, donc qui est le symbole de la lumière, du Christ ressuscité, et il proclame le credo. Voilà, donc Cyril nous dit, vous tournez vers l'Orient, vous professez votre foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et aussi dans la formulation, il y a « et au baptême de conversion ». Donc voilà, ils prononcent leur credo à haute voix. Voilà, il n'y avait pas qu'un seul baptisé, donc... futur baptisé. Donc vous imaginez qu'il y avait du monde, plus les parrains marraines, plus les accompagnateurs, plus donc voilà, il y avait un peu de monde. Hein. Plus les diaconesses pour les filles, etc. Alors ensuite, on est au dévêtissement. Donc une fois qu'on a fait cette étape de renonciation et de credo, les catéchumènes déposent leur dernier vêtement. Donc ils se mettent nus, voilà. Ils symbolisent le dépouillement du vieil homme et la nudité originelle d'Adam avant la chute. Voilà. Et donc donc c'est pour ça qu'il y a des diaconesses pour les femmes et des diacres pour les hommes, mais de toute façon l'évêque en l'occurrence donc Cyril de Jérusalem est là et voilà et ça fait partie du vraiment une idée très forte de se dépouiller du passé. Donc vous voyez les renonciations sont assez marquées et puis ce côté dévêtissement pour vraiment se dire voilà je mets derrière moi un certain nombre de choses. Ensuite il y a une onction pré-baptismale. Donc ils sont oints d'une huile exorcisée sur tout le corps de la tête aux pieds, donc ça tombe bien qu'ils soient nus d'ailleurs. Cette huile symbolise la force du Christ, elle chasse les influences démoniaques, prépare à recevoir la grâce. L'huile exorcisée est un sceau protecteur contre le mal. Voilà. Et ensuite, le catéchumène est conduit vers la piscine comme le Christ depuis sa croix jusqu'au tombeau. Donc c'est vraiment cette idée, on mime et on suit ce qu'a vécu le Christ. Donc ensuite, il y a l'entrée dans la piscine baptismale. Je reviendrai après sur un certain nombre d'éléments, parce que comme je ferai l'évolution, voilà. Donc vous êtes descendu 3 fois dans l'eau et 3 fois remonté, afin de signifier la triple résurrection du Christ au 3e jour. Donc, il y a vraiment cette idée de mimer avec 3 fois pour bien montrer les 3 jours du Christ au tombeau. Et 3 fois, on se relève pour voilà, la résurrection.
Vous êtes
question ?
Oui, moi aussi.
Si c'est juste de compréhension, oui.
C'est quoi la triple ?
Bah oui,
c'est ça. C'est 3 fois.
Oui, mais pourquoi ils ne sont pas ressuscités 3 fois ?
Non, mais c'est pour bien montrer qu'ils vont être ressuscités. Donc, c'est pour marquer les choses. Donc oui, il n'est pas ressuscité 3 fois, mais il est vraiment ressuscité. Donc voilà, on le fait 3 fois pour bien montrer ce côté relèvement à chaque fois et qu'il est complet quand on a prononcé. Parce que pendant que le catéchumène est plongé 3 fois, il y a la formule trinitaire de Matthieu qui est au nom du Père, plongé, relèvement, au nom du Fils, plongé, relèvement, et au nom du Saint-Esprit, plongé, relèvement. Donc à la fin, il est effectivement vraiment ressuscité avec... à l'image de Dieu. Voilà. Donc l'immersion représente la mort, la sépulture et la sépulture et la résurrection avec le Christ, donc c'est le relèvement. Voilà. On meurt au péché, on renaît à la vie nouvelle. Et pendant ce baptême, donc c'est plutôt l'épître aux Romains, alors je ne sais pas très bien si c'est lu avant, après, mais enfin bon, c'est à peu près en même temps. L'épître aux Romains qui est vraiment sur le thème de la mort et de la résurrection du Christ. Voilà. Le pseudo Denis appelle le baptistère, donc la matrice de toute filiation, puisque de l'eau, elle est à la fois symbole de la mort et en même temps symbole de la vie, puisqu'elle est vivifiante et maternelle. Et donc là, on est dans cette idée du baptistère qui symbolise le tombeau. Et il se relève du tombeau, et quand il quitte le baptistère, et ben, le tombeau est vide. Voilà, comme pour Jésus. Ensuite, il y a le vêtement blanc. Donc, vous êtes ressuscité en sortant de l'eau, vous avez revêtu le Christ et vous êtes devenu fils de Dieu et co-héritier du Christ. Et donc, le néophyte reçoit, donc là, maintenant, il est néophyte puisqu'il est baptisé. Et donc, il reçoit un vêtement blanc, symbole de la pureté retrouvée et de la vie nouvelle dans le Christ. Donc, il est habillé de nouveau, mais cette fois-ci avec un vêtement de lumière. Et il est membre à part entière de l'Église. Et on donne le cierge au nouveau baptisé, qui est allumé au cierge pascal, ce qui signifie que le Christ a illuminé le néophyte. Donc là, vous retrouvez quand même des éléments que vous avez dans les baptêmes aujourd'hui. Donc on voit bien que c'est quand même assez pareil. Et ensuite, on a l'onction post-baptismale. Donc après être sorti du baptistère, vous avez été oint avec le Saint-Crème, symbole de la réception de l'Esprit-Saint. Donc l'onction du Saint-Crème, huile parfumée consacrée, est faite sur le front, les oreilles, les narines, la poitrine. Donc c'est vraiment le sceau du don du Saint-Esprit. Elle est apposée sur le front, les oreilles, les narines, etc. C'est sur le cœur, l'intelligence, mais aussi les sens. Et elle confère la force pour vivre en chrétien, être témoin du Christ et marque l'entrée dans le sacerdoce commun des fidèles. Donc là, on a vraiment le don de l'Esprit-Saint. La lecture en parallèle de cette onction post-baptismale est la première épître de Jean qui accompagne cette chrismation. Et les néophytes reçoivent donc le nom de chrétiens, puisque maintenant ils sont oints comme le Christ. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit-Saint, ce qu'il dit dans les Actes des Apôtres. Et donc, comme le Christ, ils sont marqués du Saint-Esprit. Et comme le Christ, après être sorti des eaux du Jourdain, le Saint-Esprit vient se reposer sur lui. Donc on est aussi dans une logique très... on suit le Christ pas à pas. Et puis ensuite, il y a la première participation à l'Eucharistie. Donc les nouveaux baptisés communient pour la première fois au corps et au sang du Christ. Donc là, clairement, on est sur les baptêmes de la Vigile Pascale et cette onction post-baptismale... contrairement à la pré-baptismale, celle-là, c'est celle de la chrismation, de la confirmation. Donc là, on est bien sur les trois sacrements d'initiation qui sont donnés dans la nuit de Pâques, le baptême, la confirmation et la première Eucharistie. Alors ça, c'est donc le descriptif de Cyril. Je peux vous dire que c'est assez long, hein, donc vous pouvez dire il y a plein de choses, il raconte plein de trucs. Voilà, donc c'est très riche et très porteur de sens. Alors, déjà, ce que je voulais souligner avec vous, c'est la remarquable continuité des rites du baptême. Parce que quand même, vous avez retrouvé beaucoup de choses, je pense. C'est assez régulier. Moi, j'ai eu 7 baptêmes hier à la messe. Donc, j'ai bien vérifié qu'effectivement, c'était à peu près dans ce cadre-là. J'avais des bébés et des jeunes enfants. Donc, on était bien dans le cadre de baptême d'adultes et baptême d'enfants. Donc, il y a quand même une forte continuité. Donc clairement, la formule trinitaire, elle est très constante jusqu'à aujourd'hui. Elle est conforme à Matthieu 28, 19. « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Alors, le « je te baptise », cette formule active, elle est utilisée de façon privilégiée dans l'Église catholique et ce, depuis le début. Et elle met en avant l'action du ministre qui, au nom de l'Église et du Christ, réalise le sacrement sur la personne recevant le baptême. Dans la tradition orthodoxe, mais c'était aussi une formule qui peut être utilisée, donc les deux sont quelque part justes. On utilise la forme passive. Le serviteur de Dieu, Daniel, est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, dans cette forme passive, ce qu'on met en avant, c'est que c'est l'action de Dieu et que finalement, l'officiant est transparent à la grâce divine. Voilà. Et donc, les deux formulations, finalement, existaient depuis les premiers siècles. Mais voilà, plutôt l'Orient et les églises orthodoxes avec la formule passive et la formule active côté église catholique latine. Voilà. Et puis, ce qu'on voit aussi qui est resté assez stable, c'est l'eau, bon, ça évidemment, la parole, donc un certain nombre de paroles qui sont dites et puis même de lecture, le Saint-Crème, le vêtement blanc et le cierge. Voilà. Par contre, il y a quand même des choses qui ont évolué. Alors, déjà, il y a la première question sur la généralisation du baptême des enfants. Alors, le baptême des enfants a toujours existé. Donc même à l'époque des tout premiers siècles. On en a d'ailleurs trace dans Actes des Apôtres, puisqu'il y a toute une famille qui se fait baptiser. On n'imagine même pas qu'il y a une famille où il n'y a pas de bébé, en l'occurrence. Donc si toute la famille s'est fait baptiser, bah, il y a forcément des bébés dans l'eau. Voilà, donc ça existait et il n'y avait pas de problème à ça. Cependant, on est dans un monde plutôt païen, donc en fait, on parle surtout de la conversion d'adultes, en fait. Donc le régime de le plus de baptêmes donnés, c'est quand même des baptêmes de gens qui viennent du monde païen, voilà. C'est pas encore les familles chrétiennes, voilà. Et puis, il y a aussi, dès le début, et Cyril de Jérusalem insiste beaucoup là-dessus, mais Origène aussi beaucoup, il y a une conscience très forte de la gravité du péché après le baptême. C'est pour ça qu'il y a une préparation aussi intense du baptême, pour qu'il y ait vraiment cette renonciation, ce souhait de convertir. Et il faut savoir que dans l'Empire romain, la conversion, ça pouvait aller jusqu'à refuser de donner des sacrifices aux dieux des Romains. Donc, fallait quand même tenir le coup, quoi. C'était pas si simple que ça. Donc, il y avait une vraie conversion dans un monde qui n'était pas du tout chrétien. Et du coup, le péché après le baptême a été considéré comme très grave. Voilà. On n'avait pas encore la confession régulière. Les premières confessions dans les premiers temps de l'Église, c'était des confessions où on s'accusait en public, on était exclu pendant un moment de plein de choses, et ensuite on venait avec une démarche pénitentielle, publique aussi. Donc c'était pas une partie de plaisir. Hein. C'était pas juste me rendre dans un confessionnal et je le dis tout bas. Ce qui s'est passé, et je ressors. Donc il y avait une conscience vraiment grave du péché. Et donc après le baptême, d'où le fait que beaucoup de gens aussi attendaient en disant bon, je me prépare longtemps et puis si je le fais plus tard, je vais moins pécher après le baptême, quoi. Voilà. Il y avait aussi une mortalité plus jeune que maintenant. Donc tout ça fait que ça, c'était un peu, donc c'était privilégié le baptême des adultes. À partir du haut Moyen Âge, donc on n'est pas bien tard, hein, on est, Moyen Âge, ça commence 5e, donc jusqu'au 10e, donc on est, on va dire que c'est plutôt vers l'an 1000, quoi, un peu avant l'an 1000, le baptême des enfants devient la norme. Alors, déjà parce qu'il y a eu tout un travail sur le concept du péché originel, et donc il y a eu tout ce travail dogmatique pour dire que le baptême nous enlevait le péché originel, même si on gardait la concupiscence, et donc du coup ça valait le coup de le donner dès le début, quoi, parce que pour le coup c'est idiot de pas équiper le bébé déjà avec cette liberté retrouvée quelque part, même si elle reste pécheresse. Donc il y a ça, et puis la mortalité infantile élevée qui fait que aussi c'est un vrai critère de se dire là il y a une conscience du salut peut-être qui a pris le pas sur la conscience du péché grave, pour se dire on peut pas les empêcher de enfin voilà, c'est, ils vont pas aller au ciel, quoi, donc c'est important. Voilà. Donc du coup, il y a une sorte d'inversion et du coup, la pratique est devenue complètement de baptiser en priorité, enfin en majorité, les enfants. Donc évidemment, le rituel s'adapte un peu. La préparation catéchuménale, évidemment, on ne peut pas la faire pour des nourrissons. Mais quand même, les parrains et marraines avaient une formation et les parents aussi, donc c'était pas complètement... Et c'est eux qui s'engagent très formellement à porter vraiment cette dimension de foi. Donc peut-être qu'il ne l'aura pas eu avant le baptême, mais il va l'avoir en grandissant. En tant qu'enfant, voilà. Et en même temps, la pratique, comme c'est des nourrissons, le baptême se célèbre désormais toute l'année, le plus souvent en paroisse, c'est-à-dire par des prêtres, parce qu'il y avait aussi cette question, Cyril de Jérusalem, c'est l'évêque de Jérusalem. Voilà. Et donc, du coup, il y a aussi il y a beaucoup de baptêmes à faire, donc l'évêque, il ne peut plus subvenir à tous ces baptêmes. Et donc, du coup, voilà, ça milite aussi, étant donné que c'est en plus des nourrissons, du coup, de le faire là. Voilà. Et donc, par contre, l'Église orthodoxe, elle a maintenu la pratique du sacrement. Alors, aux fêtes de Pâques, mais aussi beaucoup à la fête de l'Épiphanie. Pour eux, l'Épiphanie est une fête centrale chez les orthodoxes et qui est en lien avec le baptême, puisque à l'Épiphanie, en fait, on fait trois choses. On fait la circoncision de Jésus, l'Épiphanie et l'adoration des mages et puis le baptême. Voilà. Donc du coup, il y a tout ça qui est l'un dans l'autre. Et donc l'Épiphanie est aussi une fête particulièrement prisée pour faire les baptêmes. Voilà. Mais eux, c'est plutôt l'évêque qui baptise. Alors, après le deuxième cas de figure, comme vous l'avez vu, c'est un baptistère. Les gens sont plongés et relèvent. Donc maintenant, on est beaucoup, nous, avec des baptêmes par aspersion. Donc clairement, dans les premiers siècles, les baptêmes se font par immersion. Alors, la didaké... C'est un écrit, on ne sait pas très bien de qui, mais voilà, qui est écrit entre le milieu et la fin du 1er siècle. Donc, c'est un des plus anciens documents écrits qui nous raconte, qui nous dit à propos du baptême. « Quant au baptême, baptisez ainsi. Après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisez donc dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans de l'eau vive courante. Mais si tu n'as pas d'eau vive, baptise dans une autre eau. Si tu ne peux pas baptiser dans l'eau froide, que ce soit dans l'eau chaude. Si tu n'as ni l'une ni l'autre en quantité suffisante, verse trois fois de l'eau sur la tête dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc la didaké, elle regarde bien les choses, mais enfin, clairement, l'important, c'est de baptiser avec trois gouttes d'eau, ça marche. Voilà. Donc la force du symbole est efficace. Donc on voit qu'on est vraiment au tout début, là. Donc voilà. J'aime bien la mention l'eau chaude aussi, donc je ne sais pas très bien, on est dans les pays orientaux, alors peut-être que... Il y a de l'eau un peu chaude qui traîne, la mer morte peut-être, je ne sais pas. Je ne dis pas si elle ne doit pas être salée, je ne sais pas. Enfin, on peut être dans la mer. Et donc, effectivement, l'idée initiale était de le faire dans l'eau courante, un fleuve en lien direct avec le baptême de Jésus, mais aussi la traversée du Jourdain par le peuple, par les Hébreux, pour entrer dans la terre promise. Donc, il y a cette idée de le baptême, c'est aussi ce qui nous fait passer vers la terre promise et vers le...
Le Jourdain. C'est pas la mer Rouge qu'ils ont
traversée ? Non. Alors, oui, avant. Mais à la fin, après Moïse, au bout de 40 ans dans le désert, ils sont rentrés en terre promise à la deuxième génération, puisque la première n'a pas pu, y compris Moïse qui est mort de l'autre côté du Jourdain. Et là, c'est Josué qui a conduit le peuple hébreu pour rentrer dans la terre promise. Donc, c'est la vraie entrée dans la terre promise. Avant, c'était juste le départ de l'Égypte. Donc, ils ont traversé le Jourdain, et c'est effectivement enfin l'arrivée dans la terre promise après les 40 ans d'errance dans le désert. Donc, clairement, au tout premier siècle, le baptême par immersion a lieu dans les rivières, les mers, les fontaines. Alors, ça pouvait être aussi dans la salle de bain des maisons de patriciens, il faut croire. Donc, voilà, il y avait des fontaines. Mais on a quand même des baptistères qui sont assez vite construits. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même cette notion assez vite d'être près de l'église, puisque les baptistères étaient ou dans l'église ou à côté de l'église. Voilà, le plus ancien baptistère qu'on ait retrouvé, celui d'Oura au repos, donc c'est à l'est de la Syrie, sur le Moyen Euphrate. Donc on voit bien qu'il y a un fleuve, le Moyen Euphrate, mais il y a un baptistère quand même. Donc c'est pas parce qu'ils n'avaient pas de fleuve et qu'ils sont au plein milieu du désert, c'est bien qu'il y a cette pratique qui commence à se manifester, parce que derrière, on rentre dans l'église pour la suite, en fait, la chrismation et puis l'Eucharistie. Donc ça a du sens d'être quand même aussi dans le portail de l'église. Voilà. Alors, dans le baptistère pré-byzantin de l'église Saint-Joseph à Nazareth, alors l'église Saint-Joseph, elle est très récente, mais il y a un complexe très ancien, où on trouve la représentation du fleuve du Jourdain. Donc, non seulement qui représente, qu'on est quand même dans cette dimension symbolique de la traversée du Jourdain pour entrer dans la terre promise et d'être plongé dans les eaux du Jourdain comme Jésus. Voilà. Donc, le baptistère, il est souvent orthogonal. Donc, octogonal, parce que j'ai mis ça. Oh là là. Donc octogonal, vous corrigez, ça va pas du tout. Donc avec 8 côtés. Et l'idée, c'est de marquer le 8e jour qui sort de la série. Donc on n'est pas dans un... C'est pas juste... On reprend les 7 jours et puis ça recommence à mi-éternam. Le 8e jour, c'est le jour de la résurrection qui sort de la série et qui dit le début de la nouvelle alliance. Voilà. Jésus est ressuscité, donc on rentre dans une nouvelle alliance. Et donc le baptistère, c'est pour ça qu'il est orthogonal. Il est aussi en profondeur, donc l'idée c'était qu'il fallait descendre dans les eaux de la mort. Donc il y avait 6 marches, un fond, et du coup ça faisait 7 niveaux, et ça correspond aux 7 sphères de la gnose. Pour à travers dans la gnose, qui est une pensée un peu philosophico, enfin voilà, un truc un peu de réflexion, enfin de philosophique, on va dire. Il y a cette idée de traverser un certain nombre de sphères pour arriver dans le royaume du bien. Voilà, donc là on a aussi cette idée de il faut beaucoup de niveaux pour descendre et parce qu'il va falloir beaucoup de niveaux pour remonter. Voilà, cependant, les baptistères, en fait, on n'a pas vraiment la profondeur pour être plongé. Donc concrètement, ça veut dire qu'il s'agenouillait et que probablement que l'évêque, il plongeait la tête du futur baptisé dans l'eau. Voilà, parce que concrètement, il ne peut pas descendre en entier dans le baptistère et être immergé complètement. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est la pratique qui évolue. Donc déjà, on passe du fleuve au baptistère. Et jusqu'au XIVe siècle, donc c'est assez longtemps, la pratique habituelle dans l'Église catholique, même en Occident, donc chez les latins, y compris, enfin, voilà, on voit bien tous les baptistères qu'il y a, notamment en Italie, hein, Donc, souvent en Italie, c'est un bâtiment à côté de l'église. Hein, donc, il marque bien qu'on a d'abord le baptême et ensuite, on peut rentrer dans l'église. Donc, ça reprend cette idée de vestibule. Voilà. Et donc, le baptême était par immersion. À partir du 12e, 14e siècle, donc, il commence à y avoir une inversion en parallèle qui est qu'on commence à pratiquer l'aspersion ou effusion. Alors, il y a plusieurs mots, voilà. C'est-à-dire que soit on verse de l'eau sur la tête, soit on plonge un peu, enfin bon, c'est pas très clair. Voilà, qui commence à se répandre. Alors au début, c'était pour des raisons exceptionnelles, la maladie, le manque d'eau. Mais finalement, ça devient progressivement la norme. Surtout que comme en parallèle, on a beaucoup de baptêmes de nourrissons. En fait, c'est en hiver, dans certaines régions froides, etc., les baptistères ne sont pas chauffés. Et l'eau n'est pas chaude non plus. Donc, du coup, voilà, c'était pas non plus idéal de les immerger. En plus, il y a quand même, je vous rappelle qu'il y a la mortalité infantile à cette époque. Donc, c'était pas la peine de commencer par noyer le gamin, qui déjà a traversé l'épreuve des premiers jours. Donc, ça devient la pratique générale. Mais on a toujours gardé finalement les deux rites, et en tout cas les deux sont tout à fait recevables. Le rituel du pape Paul V, donc en 1614, proposait encore l'immersion comme alternative. Donc c'est vraiment, les deux sont possibles. Dans certains rites locaux, donc Ambroisien à Milan par exemple, ou Mozarabe en Espagne, l'immersion a subsisté plus longtemps. Donc là il y a vraiment l'idée de continuer ce symbole et de pratiquer le baptême par immersion. Dès le Moyen-Âge, les théologiens comme Alexandre de Halès et Bonaventure avaient affirmé la validité du baptême par aspersion, même sans nécessité médicale. Donc on a vraiment une évolution de la doctrine qui dit finalement l'immersion n'est pas nécessaire, puis finalement qui reprend ce que la Didache disait déjà. Ce qui est important, c'est qu'il y ait le symbole de l'eau et des trois aspersions ou immersions. Et donc on a en parallèle une évolution, enfin voilà le dogme qui s'affine, en tout cas les pratiques qui se ritualisent, et puis en parallèle des choses qui se passent. Voilà. Le Concile Vatican II, parce qu'après du coup on a quand même eu très peu d'immersion, en tout cas dans l'Église catholique latine, mais le Concile Vatican II a encouragé la redécouverte du sens du baptême et la possibilité de l'immersion, surtout pour les adultes. Donc ça c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de baptêmes d'adultes. Et on peut observer, là, à l'heure actuelle, un regain du baptême par immersion, puisque maintenant, sur Paris, vous avez un certain nombre d'églises qui, dans la vigile pascale, font des baptêmes par immersion, dans l'église catholique, je dis bien. Voilà. Et c'est vrai que le symbolisme de l'immersion, il est quand même beaucoup plus fort. Voilà, on le verra tout à l'heure, mais voilà, c'est clair que ça montre plus la mort et la résurrection qu'effectivement trois gouttes d'eau. Alors, l'Église orthodoxe, elle a maintenu la tradition d'immersion, même pour les bébés, tout bébés. Mais il y a quand même eu des tolérances. Et finalement, dans l'Église orthodoxe actuelle, eux, c'est l'inverse. Nous, on découvre l'immersion, mais eux, ils ont tendance à faire aussi pas mal d'aspersions. Donc, voilà. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, ça, c'était pour immersion ou aspersion. Après, le thème de la séparation du baptême et de la confirmation chez les catholiques. Donc, comme on l'a vu là avec Cyril de Jérusalem, à l'origine, en fait, on avait dans un même mouvement le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Voilà. Parce que c'est les sacrements d'initiation chrétienne. Donc, quelque part, c'est là, une fois qu'on a les trois, qu'on est équipé. Le baptême confère la grâce de la nouvelle naissance, le pardon des péchés et l'entrée dans l'Église. La confirmation donne la plénitude de l'Esprit-Saint, fortifie le baptisé par le témoignage et l'engagement dans la vie chrétienne. Et l'Eucharistie achevait l'intégration dans la communauté par la communion au corps mystique du Christ. Donc on avait aussi le sens de les faire ensemble pour vraiment marquer dans toutes ces dimensions le don de la grâce de Dieu. Et donc on faisait les trois ensemble. Alors, avec le fait que l'Église se répand partout, il y a beaucoup, beaucoup de baptêmes. Et qu'en plus il y a beaucoup de baptêmes d'enfants. Donc c'est compliqué pour l'évêque qui est le ministre ordinaire de la confirmation. Quand on dit ministre ordinaire de la confirmation, c'est dans toutes les églises, la confirmation doit être donnée par l'évêque. Ordinaire parce qu'il y a toujours des formes extraordinaires, si jamais vous devez confirmer qu'il n'y a pas d'évêque disponible ou je ne sais pas quoi, il y a toujours des cas particuliers. Mais enfin normalement, la confirmation est donnée par un évêque. Et donc là, si on voulait faire les trois ensemble, ça veut dire qu'il faut que l'évêque fasse tout. Et en plus, si on veut le faire pendant la vigile pascale, vous imaginez la longueur de la vigile pascale s'il y a, je ne sais pas combien de baptêmes. Donc, du coup, il y a ce fait la pratique, donc vraiment pour des raisons quand même pratiques, que le baptême est célébré par des prêtres. Et par contre, on réserve la confirmation à l'évêque. Voilà. Et du coup, on le fait à un âge ultérieur. On ne le fait pas en même temps. Alors, c'est à la fois un cadre pratique, mais aussi, finalement, un travail aussi fait sur la notion de ces deux sacrements pour dire qu'est-ce qu'est la portée de chacun, qu'est-ce qu'apporte chacun. Et donc, quelque part, de les distinguer, ça permet aussi de mieux valoriser que ce n'est pas un petit paquet cadeau. Et donc, on découvre quand même et on affirme la vraie valeur sacramentelle de la confirmation indépendamment du baptême. Sinon, c'est très onction post-baptismale et finalement, c'est un peu noyé. L'Eucharistie ayant un statut évidemment à part. Voilà. Donc ça permet de vraiment de redécouvrir ça. Et puis, rappelez-vous, maintenant, c'est des enfants. Donc, la préparation des enfants, des nourrissons au baptême, les voisines de zéro, parce qu'on n'a pas encore l'intelligence. Donc, l'avantage de faire la confirmation plus tard, c'est qu'on peut faire une préparation de la confirmation, ce qui fait qu'il y a quand même cette catéchèse qui est donnée au moment de la confirmation et qui permet d'approfondir sa foi et de se préparer. Donc, c'est intéressant de le faire aussi quand l'enfant est devenu adolescent ou jeune adulte pour vraiment qu'il le fasse consciemment et cette fois-ci qu'il puisse manifester son engagement et accueillir l'Esprit-Saint dans toutes ses dimensions. Enfin, voilà, pas juste en le recevant, mais en y adhérant de tout son être. Voilà. Donc ça a du sens par rapport aussi à la confirmation qui aussi l'envoie en mission et pour témoigner. Aussi d'avoir un âge adulte, ça, voilà, c'est pas non plus un nourrisson qui va témoigner de sa foi. Donc l'entrée dans l'alliance que représente le baptême et la confirmation a par principe deux dimensions. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à chaque fois, et nous chez le latin, on a tendance à mettre un accent fort sur la dimension individuelle. Donc c'est une personne précise qui demande le baptême, ça prend place dans son histoire personnelle, et c'est un mais c'est aussi un événement finalement pour l'Église. Et donc, moi, hier, j'étais très heureuse d'avoir des baptêmes pendant la messe, même si ça l'a rallongé un peu, parce que, du coup, c'est quand même la communauté aussi qui accueille des baptêmes, et finalement, c'est un accueil dans la communauté. Donc, c'est quand même bien que la communauté chrétienne soit là, et non pas que ce soit un baptême l'après-midi au milieu de nulle part, il y a juste les parents et les parents marraines. Voilà, donc ça a vraiment du sens, cette dimension collective, voilà. Et d'ailleurs, c'est très beau les baptêmes à la Vigile Pascale aussi, parce qu'il y a toute cette dimension communautaire et ça s'intègre dans toute cette dimension d'une fête de la communauté chrétienne. Et c'est vrai que c'est aussi ce que l'évêque manifeste, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important que la confirmation soit donnée par l'évêque, parce que l'évêque, c'est le lien avec les apôtres et c'est le lien avec l'Église. Enfin, c'est l'évêque, c'est lui qui représente et qui porte l'Église. Donc, du coup, c'est très important. Enfin, c'est pour ça que la confirmation est vraiment réservée à l'évêque. Alors, dans les deux sacrements, de toute façon, qu'ils soient donnés ensemble ou en deux temps différents, dans les deux cas, on a la grâce de Dieu et l'habitation de la vie divine. Donc, on a tout, c'est-à-dire que même au baptême, on pourrait dire à la confirmation, du coup, on a le baptême, puis après la confirmation, on va attendre un peu d'années pour avoir l'Esprit-Saint. Non, au baptême, on a tout d'un coup, donc c'est pas ça. C'est la confirmation, d'où son nom, c'est « confirme ça ». Donc, quelque part, il y a un deuxième jet pour être sûr que ça... Non pas que ça marche, parce que ça marche dès le premier coup, mais que nous, on le reçoive, en fait. Et ça, on voit bien que c'est un peu la pédagogie de Jésus, qui est souvent en répétition. Ce qui permet l'approfondissement. Je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a deux pêches miraculeuses, deux multiplications des pains, deux effusions de l'esprit, puisqu'il y a le soir de Pâques, Jean 20, et puis il y a la Pentecôte. Donc, il y a cette idée de la surabondance du don de Dieu. Donc, ça ne le dérange pas de donner plusieurs fois pour qu'on ait l'Esprit Saint. Et en même temps, notre difficulté à accepter tout d'un coup, et donc le faire deux fois, ça permet de mieux recevoir et d'aller au bout de la réception. Voilà. Donc, c'est un peu... on se met en relation et puis après, on comprend vraiment cette relation. Donc, ce n'est pas idiot de séparer les deux. Voilà. Mais par contre, il faut vraiment garder cette idée que c'est quand même les sacrements d'initiation. Et du coup, il y a quand même eu des travers en poussant la confirmation très loin qui fait que un certain nombre de personnes arrivent à l'âge adulte sans avoir fait leur confirmation. Parce que l'adolescence, ça s'est éloigné de l'Église et que voilà. Et puis du coup, ils n'ont pas la confirmation, ce qui est quand même un peu dommageable, puisqu'on parle des sacrements de l'initiation. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et d'ailleurs, on voit que l'Église latine, elle a passé son temps à osciller entre plutôt post-adolescent très tard, vers troisième, seconde, plus tard, ou plutôt très tôt, avant même la première communion. Enfin, il y a eu à peu près tous les modes et toutes les modes, on va dire, d'âge. Mais c'est aussi parce que ça se cherche sur... comment le positionner le mieux. Voilà. Côté orthodoxe, je ne vous en parle pas, mais eux, c'est le bébé, il est baptisé, c'est comme... voilà, il y a tout, d'un coup. Hein. Il a même l'Eucharistie, puisqu'on lui met quelques gouttes de sang sur les lèvres, donc lui, il a tout fait. Voilà. Ça n'empêche pas qu'après, il va attendre un petit moment pour faire une vraie première communion, parce que... voilà, mais en tout cas, il a tout d'un coup. Alors, après, je voulais approfondir un peu du... la redécouverte. Alors, déjà, Vatican II, il a remis un peu le... à l'heure du jour, un peu de redécouvrir finalement le baptême en reprenant des choses de l'ancien temps qu'on a lu. Et notamment, avant Vatican II, le rituel était très... Il n'y avait aucune lecture. Donc les baptêmes se faisaient un peu en série, sans aucune lecture. Donc il manquait cette dimension-là. Donc déjà, Vatican II a remis, valorisé les lectures bibliques pendant les baptêmes pour faire le lien avec la parole de Dieu. La prière universelle, alors quand c'était les vigiles pascales, il y a toujours eu la litanie des saints par exemple, mais là ça a remis à l'honneur ce genre de choses. Et la prière pour les intercessions, pour bien montrer qu'on est dans une assemblée. Voilà. Donc le rôle des parrains et marraines, et aussi des parents et des parrains et marraines, et j'ai oublié marraine, est davantage mis en avant. D'ailleurs, il y a une préparation normalement des parents parrains marraines. Donc, il y a quand même deux petites sessions. Comme j'étais marraine une fois, on m'a demandé de venir à des préparations. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt heureux. Donc, c'est possible, c'est pas fréquent. Mais voilà, et c'est pas mal de préparer parce que finalement, c'est toujours intéressant de comprendre ce qui va se passer. Et puis pour les adultes, clairement, le catéchuménat est restauré. Donc on a aussi les étapes liturgiques, donc on verra plus tard tous les scrutins, etc. Mais il y a vraiment cette idée de remettre en avant l'importance de la préparation et du catéchuménat, et de le ritualiser aussi. Voilà. Donc en gros, le baptême adulte, il nécessite 2 ans de préparation dans l'église actuelle latine, là, avec des rencontres régulières pour mieux connaître le Christ et la foi du Christ. Donc, ça ne se fait pas tout seul, puisqu'il y a à la fois l'accompagnateur, qui vraiment est en binôme avec le catéchumène, pour qu'il lui apporte vraiment une explicitation, une catéchèse, une réflexion doctrinale, etc., mais aussi des aspects sur la vie morale et le partage de vie. Voilà, mais on a toute la communauté, les futurs baptisés aussi, c'est en équipe, etc. Et les prêtres, évidemment, qui ont un rôle là-dedans. Donc ce temps de préparation peut paraître long, mais c'est un temps vraiment pour faire connaître le Christ et son Église. Et c'est toujours cette dimension qu'on est inscrit dans le temps et qu'on a besoin de temps pour intégrer les choses. Et donc le salut, Jésus nous l'a donné d'emblée, donc mais ce n'est pas une baguette magique, il faut qu'on le travaille pour le recevoir et pour se convertir. Voilà, donc c'est très consonant cette longue préparation. Et on se retrouve des préparations qui étaient à peu près de cet ordre-là au temps de Cyril de Jérusalem. Hein, donc on était sur des 2 ans aussi, voire même plus. Alors, le carême... Alors attendez, je me relis mon truc parce que j'ai inversé les paragraphes, je suis perturbée. Donc au tout début du carême, donc les futurs baptisés sont appelés au baptême par l'archevêque et leurs noms sont inscrits, signe de leur engagement et de l'appel personnel que Dieu fait à chacun. Donc on a cet appel décisif, qui ouvre au début du carême où ils vont être baptisés à la vigile pascale d'après. Voilà. Donc ils ont déjà eu le catéchuménat sur une partie d'un an et demi. Et donc c'est un temps privilégié de purification et d'illumination avec de la retraite. D'ailleurs, la Didaché disait avant le baptême que celui qui administre le baptême, donc les prêtres aussi, et celui qui le reçoit, se prépare par le jeûne, et si d'autres personnes le peuvent, qu'elles fassent de même. Voilà, tu commanderas à celui qui va être baptisé de jeûner 1 ou 2 jours auparavant. Donc il y avait cette préparation aussi spirituelle et aussi par le jeûne et la pénitence, qui sont une forme aussi pour lutter contre le malin. Donc durant le carême, on a les scrutins, donc ils sont remis à l'honneur et qui ritualisent vraiment les étapes destinées à purifier et fortifier les candidats à la réception des sacrements. Donc le mot scrutin vient du fait que le futur baptisé est encouragé à se laisser scruter par l'amour du Seigneur. Donc en fait, c'est pas lui qui agit, c'est toujours pareil, c'est comme dans le baptême, il reçoit. Donc en fait, c'est se regarder soi-même avec les yeux du Seigneur. Pour mieux voir ce qu'il faut convertir dans sa vie, mieux voir nos ténèbres et puis mieux voir aussi la lumière et se regarder aussi comme Dieu nous aime. Voilà. Et donc, il y a une sorte de progression. Alors, en fait, il se passe à peu près la même chose à chaque scrutin. Hein. Mais c'est la conversion qui progresse et c'est le temps qui permet d'apprivoiser. Et donc, on en est trois. Et c'est toujours pareil. Il faut faire les choses plusieurs fois. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de les instruire sur le mystère du péché, mais aussi de leur montrer le... quelque part, enfin, il y a une forte orientation sur la pénitence et justement la miséricorde de Dieu. Donc, c'est quasiment une préparation aussi à ce qui sera après reçu dans le sacrement de la pénitence et la réconciliation, puisqu'il y a cette dimension-là. Les futurs baptisés, donc, il y a toujours une partie, donc, dans les scrutins, il y a toujours la proclamation de l'évangile, des prières d'intercession, le rôle de la communauté pour porter. Des exorcismes, donc c'est empêcher le malin de déstabiliser le catéchumène et voilà pour qu'il aille au bout de sa démarche et qu'il soit protégé de ça. Et puis l'imposition des mains, qui est aussi la force de Dieu qui est donnée. Donc vraiment les exorcismes sont là pour libérer. Commencer à libérer manifester le Christ libérateur du mal et à essayer de protéger le catéchumène dans ce combat spirituel. Voilà, et c'est le Christ, il se passe pendant la messe du dimanche, donc c'est le 2, 3, 4, 3, 4, 5, j'ai un doute. Non, c'était là, il y en avait un, donc 2, 3, 4. Voilà, et c'est donc toute la communauté qui prie pour les catéchumènes. Voilà ce que je voulais dire sur les évolutions. Après, il y a d'autres évolutions plus subtiles. Mais bon, je vais pas faire tout le détail de tout. Donc, voilà. Alors après, je voulais faire une partie sur la richesse des symboles. Donc évidemment, le symbole central du baptême, c'est l'eau. Mais comme on l'a beaucoup évoqué au premier cours, parce que quand on a parlé des préfigurations de l'Ancien Testament, on a beaucoup abordé la question de l'eau et le déluge et tout ça. Et puis même dans l'immersion, on parle aussi beaucoup de l'eau. Donc du coup, je me suis focalisée sur les autres symboles. Voilà. Alors déjà, il y a les huiles. Parce que d'abord, il y a deux huiles. Il y a l'huile des catéchumènes. Donc elle est utilisée avant le baptême, puisque je vous ai parlé d'une onction pré-baptismale. Donc elle a été bénie par l'évêque lors de la messe chrismale. Ça fait partie des trois huiles. Donc celle-là, elle est bénie seulement. Elle fortifie le futur baptisé dans son combat contre le mal et le prépare à recevoir le sacrement. Donc l'idée, c'est comme puisqu'elle est donnée à un moment donné de lutte contre Satan, où on n'a pas encore l'équipement du baptême, de la foi et de l'Esprit Saint. Et donc c'est un peu l'idée de mettre l'huile comme sur les lutteurs qui devaient combattre et qui du coup suilaient le corps pour avoir moins de prise à l'adversaire. Donc c'est un peu la même idée. Voilà. Et je vous avais vu dans Cyril, c'est une onction complète. Bon, maintenant, en général, on met juste sur les... Enfin, on met sur les paumes des mains et puis sur... Il y a plusieurs endroits où on met cette huile pré-baptismale. Voilà. Ensuite, il y a le Saint-Crème. Donc, lui, c'est le baptisé qui en est oint immédiatement après son baptême. Donc, c'est une huile parfumée, huile d'orange, d'olive. Huile d'olive mélangée à du baume que l'évêque a consacrée. Donc, c'est pas seulement béni, celle-là, elle est vraiment consacrée. Lors de la messe chrismale, et elle est utilisée lors de la confirmation, parce que là, je parle de l'onction post-baptismale, donc chez nous, qui n'est pas la confirmation, mais elle est utilisée là, et aussi à la confirmation, et aussi à l'ordination, et puis aussi pour les consécrations des églises et des autels. Voilà, et elle signifie la plénitude des dons de l'Esprit-Saint, la consécration, la joie et la marque indélébile du chrétien. Cyril de Jérusalem nous dit « Garde-toi de supposer que ce baume ne soit rien de plus, de même en effet que le pain eucharistique après l'invocation du Saint-Esprit n'est plus un pain banal, mais le corps du Christ, ainsi ce saint baume après l'invocation a cessé de n'être que lui-même, d'être comme on pourrait dire, commun. Il est don gracieux du Christ et de l'Esprit-Saint, donc la divinité par sa présence le rend efficace. Tel est le baume dont on te chrisme symboliquement sur le front et aussi sur les divers organes des sens. » Tandis que le corps est enduit d'un baume visible, l'âme est sanctifiée par l'Esprit-Saint et vivificateur. Donc, il va assez loin puisqu'il compare ça à la transsubstantiation du pain eucharistique. Donc, il va assez loin. Alors, je ne pense pas qu'il soit aussi loin, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée qu'il y a une manifestation et que c'est vraiment l'Esprit Saint qui vient vivifier l'âme. Et donc, même si la confirmation a lieu plus tard chez les latins, il y a l'onction du Saint-Crème au baptême qui garde sa valeur propre. Et donc, elle est toujours donnée. Donc, vous avez toujours l'onction post-baptismale. En fait, elle manifeste le baptisé que déjà, il reçoit au baptême aussi Saint-Esprit. Donc, voilà. Même s'il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, on manifeste le fait qu'il est oint par le Saint-Esprit. Qu'il est donc consacré à Dieu. Et c'est comme ça qu'on parle qu'il est membre du peuple sacerdotal, prophétique et royal du Christ. Donc, quelque part, il est christifié. C'est un sceau spirituel qui signifie que la personne appartient désormais au Christ et à l'Église. Par cette onction, le baptisé est appelé à participer à la mission du Christ, prêtre, prophète et roi. Et cela exprime la dignité et la vocation chrétienne reçue du baptême. Donc après, l'onction post-baptismale, elle annonce déjà le don de l'Esprit Saint qui sera pleinement reçu lors de la confirmation, donc qui sera confirmé lors de la confirmation. Et elle prépare le baptisé à accueillir la plénitude des dons de l'Esprit. Elle symbolise la joie et la lumière et la vie nouvelle reçue dans le Christ. Et elle rappelle que le baptisé est devenu enfant de Dieu et a reçu une marque indélébile de la grâce. C'est l'onction, c'est aussi ça que ça. Il y a une marque au-delà de, comme il disait, non seulement sur le corps, mais en fait, l'âme est sanctifiée par l'Esprit Saint. Donc, elle est marquée indélébilement, spirituellement. La troisième huile, c'est celle pour l'onction des malades, voilà, qui est aussi consacrée à la messe chrismale, mais qui n'intervient pas pour les baptêmes. Le souffle. Alors ça peut passer assez inaperçu dans les rituels anciens. Il s'est gardé beaucoup à beaucoup d'endroits, chez les Coptes, les Grecs catholiques aussi, les rites orientaux, on va dire. Le rite du souffle, donc on souffle sur le visage du catéchumène au début de la célébration du baptême, avant l'entrée dans le baptistère et avant la bénédiction de l'eau. Et l'idée, c'est d'expulser l'esprit du mal et l'accueil de l'Esprit Saint. Donc, c'est un rite très ancien qui était là dès le début. Et dans le rite romain traditionnel, donc avant Vatican II, le prêtre souffle trois fois sur le visage du catéchumène en disant « Sors de cet homme, esprit impur, et fais place à l'Esprit Saint, le Consolateur. » Donc, comme s'il y avait une préparation par ce souffle de la grâce de l'Esprit Saint. Dans le rituel byzantin, donc orthodoxe et catholique orientaux, le souffle est également pratiqué, souvent accompagné de la prière d'exorcisme avant la bénédiction de l'eau et l'onction pré-baptismale. Donc comme une préparation, l'onction, elle va aussi avoir ce caractère de purifier, d'éloigner le mal. Bah, là aussi, c'est un peu la même idée. Alors dans la liturgie latine actuelle, mais c'était aussi dans la liturgie, dans le rituel romain traditionnel, donc avant Vatican II, le prêtre souffle sur le catéchumène et lui dit « Ephata ». Donc là, c'est une autre thématique, c'est le souffle qui est le... Donc là, on est plus sur la symbolique, non pas du souffle pour chasser le mal, quoique, mais plutôt pour le souffle de la vie, et donc pour s'ouvrir à la grâce de Dieu. Voilà. Donc il y a voilà. Et donc l'idée, c'est ce souffle, c'est le visage d'un mort, et qu'on relienne, donc on peut lier ça à ce qui se passe dans Ézéchiel 37,9. Voilà, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Et puis, Ephata, c'est ce que dit Jésus au sourd muet, ouvre-toi, et c'est s'ouvrir au don de Dieu. À la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, j'ai vérifié, hier, il y a bien eu Ephata. Voilà. Je sais qu'hier, j'avais eu 7 baptêmes pendant la messe, donc j'ai pu vérifier que le déroulé était correct. Avec des choses en moi, quand même. Le dépouillement. Alors, ça, c'est quelque chose de très... qui était très marquant dans les premiers siècles, cette idée de se débarrasser de tous ces vêtements. Pour vraiment renoncer aux passions convoitises de la chair et retrouver finalement la nudité originelle totale, candide et lumineuse de l'Adam, c'est-à-dire de l'humanité avant la chute. Donc, le catéchumène, avant d'être baptisé, il se situe en dehors du paradis. Il est comme Adam exilé sur la terre, à l'est d'Éden. Et son introduction dans le baptistère signifie que cet exil prend fin. Et donc, il faut se dépouiller le vieil homme comme un vêtement souillé et de prendre conscience de son état de pécheur. Et après son baptême, on reçoit un autre vêtement, la tunique d'incorruptibilité, qui lui offrira le Christ ressuscité, le nouvel Adam, le manteau royal qui permet de paraître dans le nouvel Éden, dans l'Église en l'occurrence. C'est manifestement de ça, donc il passe du baptistère à l'Église, afin de prendre part aux noces de l'agneau, à la divine liturgie eucharistique et à la communion. Donc on est bien dans cette thématique de l'ancien et du nouvel Adam. Donc là, de nouveau... le dépouillement et le vêtement blanc symbolisent cette idée de suivre pas à pas, de faire comme le Christ, quoi, finalement, et se couler dans ce que le Christ a fait pour être un petit Christ. Voilà. Et du coup, ça avait beaucoup de sens de ce dépouillement. Grégoire de Nice le dit dans Des baptismaux, nous descendons dans l'eau chargés de nos fautes et souillés par la corruptibilité de nos natures et nous en remontons purs, portant en nous cette innocence première sortie du Créateur. Ensuite, je vous ai mis un texte du père André Borelli, qui est prêtre orthodoxe à l'église Sainte-Thérèse, je crois, de Marseille, et qui fait tout un laïus, Alexia qui nous l'a passé, fait tout un laïus sur justement le sens qu'on a perdu en faisant plus des baptêmes d'immersion, n'ayant plus la... Parce que même chez les orthodoxes, hein, ils font plus le dépouillement, ils enlèvent peut-être un vêtement, mais je crois pas trop. Donc voilà, il dit ça, ça perd de son sens et que du coup, toutes ces symboliques sont plus là. Et donc, il dit, par le péché, le premier Adam perdit l'innocence et la candeur de la dignité. Il se mit à avoir honte et il se couvrit de vêtements. Le catéchumène qui s'achemine vers le baptême parcourt un itinéraire inverse. Il se dépouille du vêtement rendu nécessaire par le péché de l'homme déchu et il se met nu afin de recevoir le vêtement lumineux et résurrectionnel du nouvel Adam. Donc, il suit le chemin du Christ, le serviteur n'étant pas plus grand que son maître, et il est nu comme le Christ sur la croix. Théodore de Mopsuest, je ne sais pas qui c'est, dit au catéchumène, « Il faut que soit enlevé ton vêtement, indice de la mortalité, et que par le baptême, tu revêtes la tunique d'immortalité. » Et donc le dépouillement baptismal symbolise la rupture avec le passé. Il s'agit de troquer la livrée misérable de l'humanité pécheresse et déchue de l'individu, dont le mode d'existence est biologique, c'est-à-dire promis à la corruption du tombeau, contre la robe lumineuse du nouvel Adam, du ressuscité, qui révèle à l'humanité un autre mode d'existence, l'existence de la personne, l'être en communion, l'existence ecclésiale. Donc c'est vraiment l'idée de dire, on passe d'un statut biologique, donc on était enfant de Dieu et petit homme à notre naissance, et que par le baptême, en fait, on devient un être spirituel, donc être en communion ou un petit Christ, donc quelque part l'homme dans sa stature, un corps spirituel, et que ce mouvement, il passe comme Jésus qui s'est dépouillé sur la croix et qui est ressuscité avec des vêtements blancs, enfin, en tout cas qui viennent. Voilà. Donc du coup, il y a cette comparaison que je trouve assez chouette pour dire qu'on passe de cette existence purement biologique à une existence spirituelle. Voilà. Et donc, c'est vrai que le fait que maintenant, il n'y ait pas du tout de dépouillement. Alors, on met quand même le vêtement blanc. Parfois, c'est quand même réduit à pas grand-chose parce qu'on donne juste une écharpe blanche. Donc, et puis, quelquefois, ils arrivent, ils sont déjà avec leur vêtement blanc. Donc, bon, ce n'est pas complètement pertinent par rapport à ce sens qui est quand même effectivement très riche de sens sur le nouvel Adam. Alors, le dernier symbole que je voulais explorer, c'est la lumière. Donc dans les textes baptistiques et dans la liturgie, mais à beaucoup d'endroits d'ailleurs aussi, le baptême est appelé parfois sacrement de l'illumination. Et donc la remise du cierge n'est pas seulement un symbole extérieur, elle manifeste que le baptisé devient enfant de lumière, appelé à vivre et à rayonner de cette lumière dans le monde. Recevoir la lumière du Christ signifie que le baptisé est éclairé par la foi, qu'il sort des ténèbres du péché pour entrer dans la lumière du Christ ressuscité. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la foi reçue au baptême, elle éclaire les mystères et elle permet d'avancer toujours plus dans la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que dans les catéchèses de Cyril de Jérusalem, c'est surtout après le baptême, parce que là, on est éclairé par la foi pour comprendre en fait, tout ce qui s'est passé et tout ce don de Dieu. Quelque part avant, on est juste désireux de le recevoir, on fait ce qu'on peut et voilà. Et après, on peut comprendre. Donc, c'est vraiment cette idée et là, c'est le symbole de cette lumière. Alors, dans la tradition catholique uniquement, elle n'a jamais... Enfin, apparemment, c'est un rite spécifique dans la tradition catholique, dans l'ancien rite, parce que maintenant, on ne le fait plus, le rite du sel, donc qui se situe au début de la célébration du baptême. Et c'était un peu la même idée. C'est-à-dire que le prêtre plaçait un peu de sel béni sur la langue ou l'élève du catéchumène en disant « Reçois le sel de la sagesse, que cela te soit un gage de vie éternelle. » Voilà, et donc de préparer à goûter la sagesse de Dieu pour pouvoir comprendre les mystères et grandir. Donc le cierge, il est allumé, le cierge du nouveau baptisé est allumé au cierge pascal. Donc évidemment, c'est directement, le baptisé reçoit la lumière du Christ ressuscité. Donc il est Christ ressuscité, en fait, il revêt le Christ. C'est ce que symbolise le cierge pascal, vainqueur des ténèbres et de la mort, lumière du monde. C'est aussi la transmission de la foi chrétienne, parce que le cierge, il est donné en général par les parrains marraines. Ou les parents, enfin bon. En tout cas, il est donné à l'enfant ou à l'adulte même. Voilà, il y a cette idée de transmettre, on transmet la foi Et donc, c'est une chaîne de transmission. Et qui sont invités à aider l'enfant à marcher toujours comme enfant de lumière. Et le baptisé est appelé à marcher dans la lumière du Christ et à garder cette lumière vivante dans la vie. Donc, le cierge remis au baptisé symbolise aussi la mission, recevez la lumière du Christ. Et donc, quelque part, le baptisé est invité à rayonner de cette lumière autour de lui, à être témoin de la foi dans le monde. Alors, c'est plus vrai pour des adultes que pour, évidemment, des nourrissons. Ou en général, d'ailleurs, c'est le parrain marraine qui garde le cierge, hein, parce qu'on ne confie pas aux nourrissons. Et donc, c'est cette même idée. Plus tard, la confirmation, voilà, quelque part, il y aura le flambeau qui sera passé. Voilà. Et puis, le cierge pascal, il éclaire toute l'assemblée. Donc, le baptême n'est pas un acte isolé, mais une entrée dans la communauté des croyants appelée à vivre de la lumière du ressuscité. Donc, ce petit symbole de cierge, vous voyez, il peut dire aussi beaucoup de choses. Donc, en fait, on peut prendre tous les éléments du baptême, et il y en a quand même beaucoup, et en faire voilà, une catéchèse à chaque fois. Donc, je vous ai fait un aperçu seulement. Le catéchumène vit ce que Jésus a vécu dans sa passion et sa résurrection, le baptême de Jésus étant une préfiguration de sa passion. Donc ça, c'est, je pense, vraiment important de se dire que le baptême, c'est cette idée de vraiment voilà, traverser ce que Jésus a traversé pour, avec lui, être ressuscité et donc être christifié. Voilà. Et le baptême de Jésus était une préfiguration, comme on l'a vu la dernière fois, de la passion. Donc il y a cette idée de plonger dans les eaux et ressortir des eaux et la colombe qui vient se poser, comme l'Esprit-Saint. Les paroles, les gestes, les symboles, tout est porteur de sens, y compris le ministre, y compris les lieux. Les baptistères sont en général au début de l'église parce que bah, et puis après on monte vers le cœur, donc toutes ces symboliques là. Pareil, quand on fait le baptême dans le cœur, bah, c'est pas exactement la logique. Le sacrement est avant tout un don de Dieu. Ce qui est indispensable, c'est une vraie catéchèse sacramentelle, mystagogique, comme dirait Cyril de Jérusalem, qui fasse goûter la beauté de ce don de Dieu et qui termine celui qui la reçoit à se donner complètement au Christ. Et en fait, c'est avant comme après, puisque de toute façon, on sait que le baptême, c'est une porte ouverte et c'est un début, c'est pas tout est donné, tout est fait, et puis après, on est tranquille. Et donc, il faudra continuer de préparer par la parole, d'accompagner, d'instruire, de relire, de reprendre, etc. Et pour finir, je vous ai mis un petit paragraphe de Saint Grégoire de Nassions, parce que comme je ne l'avais pas cité, il n'y avait pas de raison qu'il soit privé de citation. Le baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu. Nous l'appelons don, grâce, onction, illumination, vêtement d'incorruptibilité, bain de régénération, sceau et tout ce qu'il y a de plus précieux. Don parce qu'il est conféré à ceux qui n'apportent rien, grâce parce qu'il est donné même à des coupables, baptême parce que le péché est enseveli dans l'eau, onction parce qu'il est sacré et royal, tels sont ceux qui sont loin, illumination parce qu'il est lumière éclatante, vêtement parce qu'il voile notre honte, bain parce qu'il lave, sceau parce qu'il nous garde et qu'il est le signe de la Seigneurie de Dieu. Donc il essaye de reprendre dans une phrase un peu tous les formes. Voilà, voilà.